Bonjour à tous, je m'appelle René-Luc Bénichou, je suis journaliste à l'agence de presse AEF en charge du fil d'information sur la recherche et l'innovation, fil dans lequel on est régulièrement amené à parler du sujet qui nous occupe pendant ces deux jours. Je vous en prie, installez-vous où vous pouvez et où le mieux c'est où on vous voit aussi. Donc, pour parler avec nous à cette première table ronde qui se focalise sur les compétences. Les compétences, d'abord, qu'apporte ce que l'on appelle la formation doctorale. Excusez-moi. Et aussi celles qu'attendent les entreprises. On a vu que Didier Roux, qui a connu les deux, puisqu'il a été dans la recherche publique et maintenant il est dans l'entreprise, est un grand fanat de la formation doctorale. On va voir si c'est partagé par d'autres entreprises. Nous avons ici, pour parler de ces questions avec nous, alors je les cite dans l'ordre dans lequel je les vois, c'est-à-dire Bénédicte Thillois, vous êtes directrice générale adjointe chargée des ressources humaines, mais aussi secrétaire générale de SNCF Réseau. Pierre Mutzenhardt, vous présidez l'Université de Lorraine et accessoirement vous êtes aussi président de la commission recherche et innovation d'un obscur corps qui s'appelle la conférence des présidents de l'université. Vous représentez quand même ici les universités. Ensuite, nous avons Vincent Mignotte. Vincent Mignotte, vous dirigez une structure d'interface entre les docteurs, le monde de la formation par la recherche et le marché du travail, qui s'appelle l'ABG et qui est relativement connu tout de même. Voilà, vous allez nous expliquer une dernière innovation qui vient d'être mise au point. Et enfin, nous avons Laurent Gouzen, qui est représenté ici le MEDEF. Vous en présidez le comité du financement et du développement de l'innovation, si j'ai bien noté. Et accessoirement, vous intervenez aussi auprès de l'OPEXT. Et vous étiez membre de quelque chose qui, par contre, est en train de disparaître, puisque c'est absorbé par ce qu'on appelle le nouveau CNEXER, qui était l'ancien CSRT. Voilà, le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie que la loi du 22 juillet 2013 a fusionné avec le CNESER. Bien, et bien, comme on a pris effectivement un peu de retard, autant commencer tout de suite dans le vif du sujet. J'avais envie de commencer un peu avec vous, Laurent Mutzenhardt, puisque après tout, tout part de l'université où sont formés les docteurs. En tout cas, c'est l'université qui leur délivre le titre de docteur. Une question que je voulais vous poser au fond, c'était, à votre avis, considérez-vous que l'université soit contente des docteurs qu'elle forme ? Voilà, de la formation qu'elle leur donne et du produit, si j'ose m'exprimer ainsi, qu'elle délivre pour des besoins quand même très très différents. On a vu qu'il y a des attentes de la part de tout un tas de milieux très différents.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, oui, on est fiers d'une formation qui est une formation d'une extrême qualité et qui sanctionne un diplôme qui est mondialement reconnu. Je pense, en entendant les pré-débats ou les allocutions qu'il y a eu, qu'il faut peut-être aussi redire quelques points qui sont importants. Un, la plupart des docteurs ne s'insèrent pas dans la recherche publique. Ils s'insèrent dans le privé. On l'oublie trop souvent. Et ils s'y insèrent, quelles que soient les disciplines. Deux, je pense qu'on parle beaucoup de l'insertion qui est en recherche. Mais il n'y a pas que cette insertion en recherche. Je pense que ce qui fait la force aussi d'autres pays, et là en France on n'a peut-être pas cette écoute-là des entreprises, c'est l'insertion de nos docteurs parce qu'ils ont ce niveau et cette formation sur l'ensemble des postes de cadre de haut niveau dans les entreprises. Et je dirais, on le voit pour d'autres postes, c'est pas parce qu'on a fait une thèse dans un domaine comme la physique et la chimie, l'histoire ou la géographie, qu'on ne peut pas appréhender des postes de très haute responsabilité dans les entreprises en étant dirigeant de certains axes. On le voit en Angleterre, on le voit dans d'autres pays où ce n'est pas simplement la discipline qui détermine l'emploi qu'on va avoir, c'est le niveau et la personnalité. Et là, bon, il y a beaucoup de directeurs d'écoles doctorales qui sont là. Il faut bien avoir conscience que dans toutes nos écoles doctorales, qui sont particulières en Europe, hein, tous les pays n'ont pas des écoles doctorales, nous permettons à ces docteurs d'avoir un certain nombre de compétences complémentaires pour qu'ils puissent mieux s'insérer. On a parlé de l'entrepreneuriat, mais il y en a bien d'autres, et qui sont adaptatives. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner les mêmes connaissances complémentaires à quelqu'un qui fait un doctorat en sciences politiques et en droit. Ça ne sert à rien d'aller lui apprendre un peu plus de droit des entreprises, peut-être un peu plus de technologie, peut-être un peu plus de ce que peut être, je dirais, les questions de recherche ou d'international à certains moments. Et inversement, pour des docteurs qui sont plutôt des docteurs en sciences, ou quand on forme des docteurs en sciences, de leur donner une ouverture vers l'entreprise. Je crois qu'on le fait tout le temps. Donc le doctorat, de ce point de vue-là, c'est une expérience qui est quand même unique et qui permet une insertion non seulement dans les domaines disciplinaires, pour lesquels on a été formé, en recherche, ça a été dit et redit, mais aussi dans d'autres domaines. Et il y a un certain nombre d'exemples où on voit des docteurs qui s'insèrent à très bon niveau dans des entreprises pour y faire des choses très très diverses. On voit des docteurs en sciences humaines et sociales qui s'insèrent, je le vois, en étant transfrontaliers dans les domaines bancaires au niveau du Luxembourg, par exemple. Et notre principal problème, je pense, c'est de faire reconnaître le doctorat à la fois dans la fonction publique française, mais aussi dans les entreprises, comme étant un diplôme qui apporte à l'entreprise quelqu'un d'une haute compétence qui va emmener l'entreprise plus loin.
Je ne voudrais pas prêcher pour ma paroisse, hein. Après tout, je suis ici qu'animateur, mais en fait, je voulais un peu abonder dans votre sens. Il se trouve qu'on organise à l'AEF tous les ans une manifestation qui s'appelle les rencontres université-entreprise. Bon, déjà, ça veut dire qu'elles se rencontrent, hein. Au moins à cette occasion-là, j'espère quand même qu'elles le font plus souvent. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'à cette occasion-là, on met en avant précisément des docteurs, hein, qui ont créé des entreprises ou qui sont en passe de créer des entreprises, ainsi que, eh bien, on distribue aussi un prix des meilleures initiatives à partager en termes de recherche entre les universités et les entreprises. On a récompensé cette année un LabCom, ces laboratoires communs entre PME et unités mixtes de recherche qui sont soutenues par l'ANR. Et on a décerné également des prix à des docteurs entrepreneurs. Et ce qui me fait penser d'ailleurs dans la formation finalement des docteurs, vous n'êtes pas non plus étranger à la CPU à booster les qualités de communication des doctorants, puisque quand on crée une entreprise, nous on les coach, hein, aller voir un investisseur, c'est quand même pas de la tarte, il faut présenter en moins de 5 minutes un projet et convaincre pour récupérer 200 000 euros. Bon. À la CPU, vous avez lancé également une opération qui marche très très fort, hein, qui s'appelle Battle en 180 secondes. Parlez-nous un peu de ça. C'était pourquoi ?
Alors, en fait, ça tombe bien que vous tombiez sur l'Université de Lorraine, puisqu'on a importé ce concept du Canada il y a 3 ans. Il a été repris par la CPU et le CNRS pour s'étendre nationalement. Et en fait, c'est un pitch où le doctorant doit exposer en 3 minutes son sujet de thèse et aussi faire de la médiation des sciences. Donc c'est un exercice qui est très utile. Et quand on parle de compétences complémentaires, dans cet exercice, on leur apprend à faire du théâtre, on leur apprend à faire de l'abstraction, on leur apprend à se mettre en scène. Et c'est un exercice qui est aussi très utile dans l'entreprise. Alors, pour preuve, nous, on a eu des contacts, je ne vais pas citer les groupes, mais avec des directeurs recherche et développement qui voulaient importer le concept dans le cadre recherche et développement de leur entreprise pour faire pitcher, en fait, leurs ingénieurs et leurs chercheurs à l'intérieur du groupe. Parce qu'on a besoin d'avoir une communication qui soit précise, rapide et aussi qui soit ouverte au public que l'on a. Donc, ça fait bien sûr partie d'un événement de communication, mais ce n'est pas qu'un événement de communication pour mettre la thèse en avant, c'est aussi un vrai exercice qui est offert aux docteurs dans leurs compétences complémentaires. Je voudrais revenir juste aussi sur la relation avec les entreprises. On a parlé des chiffres, mais combien de thèses sont aussi financées par directement ou indirectement par des entreprises dans le cadre de contrats que l'on passe avec elles? Elles sont très nombreuses. On ne le dit pas assez. Mais ça représente un volume qui est relativement important, qui est au moins aussi important que le financement dans mon université État que l'on a pour financer les thèses.
Le doctorant est fortement impliqué dans ce type de contrats qui ne sont pas des chiffres. En fait, je vous pose la question parce qu'effectivement, il y a pas mal d'initiatives qui accompagnent le doctorant au cours de sa thèse pour finalement qu'il développe d'autres compétences transversales. Et pourtant, on entend quand même parler de relations entre université et entreprise qui pourraient être...
On entend parler pourtant de relations avec entre les universités et les entreprises qui gagneraient encore à être améliorées. Donc ça va un petit peu à l'encontre de ce que vous me dites. Donc je me demandais si finalement l'intensité des relations qu'entretiennent les entreprises et les universités descendait systématiquement jusqu'à l'école doctorale et aux doctorants.
Oui, tout à fait. La plupart des écoles doctorales dans leur conseil ont des entrepreneurs et des industriels qui sont présents. C'est de même dans la plupart de nos conseils d'université. Donc cette relation, elle est présente. Maintenant, notre problème est sans doute d'amener un certain nombre d'entreprises qui ne connaissent pas l'université dans sa globalité à travailler avec l'université. Celles qui connaissent trouvent toutes les clés et il y a énormément de dispositifs, que ce soit au niveau du doctorat ou autre, pour travailler avec l'université. Mais nous manquons, ça a été dit aussi, d'un certain nombre d'ETI qui sont vraiment sur les marchés recherche et développement, que l'on n'a pas vu se former en France pour diverses raisons. Et donc là, il faut qu'on accompagne plutôt des plus petites entreprises à devenir ces futurs ETI qui vont sur des marchés. Et un des accompagnements possibles, c'est bien évidemment au travers soit du doctorat, soit de l'insertion professionnelle de nos docteurs. Il y a quand même un phénomène qui est relativement nouveau, c'est l'entrepreneuriat, à tout niveau dans l'université, mais plus spécifiquement au niveau des docteurs. Ça fait pas très longtemps que l'on parle d'entrepreneuriat au niveau de l'université, et on a oublié, peut-être parce que les ingénieurs étaient d'abord formés, parce que... pour aller dans l'industrie comme cadre de l'industrie, parce que à l'université on pensait que les filières menaient soit à la recherche dans le système académique, soit en droit au métier du droit, soit à la santé au métier de la santé. Et on a oublié toute la capacité et l'ingéniosité de la jeunesse, et notamment des doctorants, à pouvoir créer des entreprises ou à être entrepreneurs. Ça, c'est, je pense, quelque chose qu'il faut continuer, parce que c'est certainement ce qui donnera un rebond à notre industrie, qui permettra l'insertion des jeunes et voire la création par des jeunes. Je pense que les futures sociétés, ou quand on regarde les grandes sociétés de la bulle informatique, leurs dirigeants, ils ne sont pas très très âgés. Et je pense que les futurs dirigeants des futures entreprises, ce sont les docteurs que nous avons actuellement dans nos universités.
Oui, ça marche. Merci Pierre Mutzenhardt. Cela dit, peut-être que il est un peu ambitieux de viser que tous les docteurs deviennent entrepreneurs. Enfin, je veux dire, ça sera une minorité probablement. En attendant, aujourd'hui, la majorité des docteurs ne créent pas d'entreprise et donc vont frapper à la porte des employeurs existants. L'université, les organismes de recherche, les entreprises. Et là, ils viennent avec les compétences.
Il y a ma voisine qui veut réagir. Alors, je vais la laisser réagir. Mais créer des entreprises et être entreprenant ou apprendre à être entreprenant, c'est deux choses qui sont différentes. On leur apprend aussi à être entreprenant, c'est-à-dire à pouvoir être à l'intérieur dans l'entreprise des moteurs pour la création de valeur.
C'est exactement ce que je voulais dire.
Excusez-moi.
Non, mais tant mieux, parce qu'on est d'accord. C'est vrai que l'idée qu'il pourrait y avoir des entrepreneurs d'un côté et puis des chercheurs qui ne viseraient pas la création de valeur de l'autre, il faut tuer cette idée. Absolument. Au contraire. On a absolument besoin que l'université forme des gens qui sont entreprenants dans leur façon d'aborder leur univers. On peut être entreprenant quand on travaille dans une start-up. J'ai quelques anecdotes, je pourrais vous en parler. Mais on est entreprenant aussi, y compris au sein d'une direction de la recherche, parce qu'on a intérêt à faire partager ses idées, à faire en sorte que ses managers les portent, à faire en sorte que les managers les portent auprès des décideurs pour que des projets deviennent réalité. Donc évidemment qu'on a besoin d'avoir une formation à l'entrepreneuriat. Et je pense que dans nos sociétés, où on voit les modèles économiques complètement remis en cause, notamment par le big data, pour ne citer que cet exemple-là, le fait d'avoir des docteurs a une énorme valeur ajoutée, parce que ce sont des gens, d'après ce que j'en comprends, qui abordent leur univers avec le doute. Et on est en ce moment dans une période où il est important d'être à la fois entreprenant et d'avoir du doute. Et c'est la combinatoire des deux dont nous avons besoin actuellement dans les entreprises. Donc ce que je peux dire, c'est que à la SNCF, où nous avons actuellement 55 docteurs dans l'équipe, nous voulons les multiplier par 3 d'ici 2020, précisément pour ça. Parce qu'il y a une compétence scientifique à l'origine, mais on n'achète pas que la thèse. On achète la thèse dans un premier temps, et ensuite la capacité à développer un entrepreneuriat et être une sorte de moteur de la transformation de valeur dans la boîte.
Eh bien, merci. Ben, j'ai envie de vous demander directement, puisque vous venez de parler de vous acheter pas seulement la thèse, mais une capacité, est-ce que cette capacité, vous la trouvez relativement fréquemment parmi les docteurs qui viennent frapper à la porte de SNCF ?
Alors, d'abord, très honnêtement, moi, je n'exerce la fonction RH que depuis 6 mois. Toute ma carrière avant la SNCF, j'étais plutôt patron de business. Ce que je peux dire, c'est que j'ai été notamment patron de l'activité Transilien, qui est l'exploitation du RER et des trains de banlieue, ô combien difficile. Et ouais. Généralement, ça fait ça.
Vous parlez à des gens qui souffrent.
Je vous donnerai mes coordonnées Twitter, vous pouvez m'interpeller. J'y suis très largement habituée, mais précisément pour ça, il y a quelques années, compte tenu du fait que les transformations des infrastructures sont sur des cycles extrêmement longs, on a voulu travailler sur ce que la question de la saturation, c'est-à-dire la question de la foule. Et la question de la foule, c'est des questions scientifiques, c'est des questions sociologiques, c'est des questions comportementales. Et on a lancé, en ouvrant nos données, des hackathons. Des hackathons, hein, ça consiste en fait à faire travailler, c'est le mélange entre hacker et marathon, pendant 48 heures, vous faites travailler tous les gens qui veulent, vous leur ouvrez vos données et ils vous font des propositions de services, d'applications qui sont utiles potentiellement aux utilisateurs du mode. Et ben, les gagnants, la presse a dit des petits geeks, que nenni, docteur en physique, docteur en maths, c'est eux qui nous ont aidés à développer un système de crowdsourcing qui permet à tous les voyageurs d'interagir, de dire à l'avance, en fait, enfin, de dire s'ils veulent voyager dans un train plein ou un train vide, de changer leur comportement et par là même, en fait, de jouer sur la demande, alors que nous n'étions habitués en Ile-de-France à l'inverse du TGV qu'à agir sur l'offre. Ce qui est intéressant, c'est que ces docteurs, puisqu'il s'agit de docteurs en mathématiques et en physique, on les a rencontrés, on les a aidés à monter leur start-up. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils ont entre-temps gagné le prix du MIT. Ils nous ont montré, en fait, quelles étaient les nouvelles compétences qu'on avait envie de recruter dans les entreprises, c'est-à-dire des gens qui étaient à la fois extrêmement pointus dans leur domaine et aptes à en repousser les connaissances, et en même temps être capable de travailler avec nos propres équipes. Et ce que je voudrais passer comme message, c'est qu'un docteur dans une entreprise, il s'insère, mais il aide les managers qui sont autour de lui à se poser des questions et à poser des questions du doute et de la remise en question. Et c'est extrêmement salutaire. Et nous avons la réputation d'être une entreprise qui a quelquefois trop de certitudes. La remise en cause de nos modèles, elle nécessite des compétences de tout niveau, pas que des docteurs d'ailleurs. Hein. Le design thinking, c'est-à-dire la capacité à réfléchir en même temps le nouveau modèle économique, le nouveau modèle scientifique en relation avec les usages de nos clients. Et ça, c'est des compétences que je pense on trouve chez les docteurs. J'espère qu'il y en a parmi vous que ça inspire.
Merci en tout cas. Est-ce que ça marche? Oui. Merci en tout cas pour ces témoignages. J'ai un micro-cravate, il paraît que ça marche.
Vous l'entendez?
Bon, alors c'est parfait. En fait, je voulais vous demander, Laurent Bouzène, au nom du MEDEF, hein, parce que là, on a parlé de la SNCF, hein, maintenant, vous, vous représentez quand même un nombre d'entreprises beaucoup plus volumineux. La question que je me posais, c'était de savoir si, en France, en tout cas, les entreprises aiment les docteurs. On a entendu dire qu'on a des formations d'ingénieurs, on a le doctorat, et que, bon, vous savez, l'éternel débat... sur la concurrence, hein. Mais les entreprises elles-mêmes, comment le MEDEF, au nom des entreprises, perçoit-il le doctorat et les docteurs qui sortent des écoles doctorales?
Merci. Alors moi déjà, je suis un docteur aussi, donc comme ça, je suis complètement biaisé dans mon approche.
Vous êtes polytechnicien aussi, si
oui,
je m'abuse.
Polytechnicien, mais, voilà, je suis ingénieur.
Je me demande ce qui avait le plus compté dans votre carrière.
Ingénieur et docteur, j'ai commencé effectivement ma recherche au CNRS et à l'ONERA, et après j'ai fait une start-up, et puis après je suis allé dans un grand groupe qui s'appelait ST Microelectronics, dans lequel j'ai travaillé pendant 20 ans. Et ce qui m'a choqué en arrivant dans cette grande structure, c'était de voir qu'en fait on avait finalement supporté, on payait, je serais en 93, c'est assez ancien, mais il y avait à peu près 5 docteurs qui étaient financés par l'entreprise. Et donc je me suis dit, il y a un truc qui ne colle pas, et puis comme ça rentrait dans le spectre de mes missions, j'ai commencé à faire un peu d'évangélisation, et une vingtaine d'années plus tard, l'entreprise finançait plus de 200 docteurs. Je ne parle pas des embauches, hein, je parle des thèses qui étaient financées, donc c'est quelque chose de considérable. Donc je pense que dans tout ce qui est grand groupe, aujourd'hui, le doctorat est quelque chose de très connu. Il n'y a pas de souci à se faire. Vous avez entendu Didier Roux tout à l'heure qui en a extrêmement bien parlé. Je pense que tous les directeurs techniques ou scientifiques des grands groupes auront un discours voisin sur la qualité des docteurs. Donc après, les PME. Alors les PME, c'est un petit peu plus difficile parce que le docteur, c'est le savant de l'entreprise. Vous voyez, quand vous avez un petit groupe, vous avez les PME, vous avez 3, 10... chercheurs, déjà c'est déjà pas mal, parce que il faut savoir que quand vous avez 10 chercheurs et que l'entreprise y met 5% de son chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il y a 20 fois plus de personnes. Donc des entreprises, 10 chercheurs, ça fait déjà une boîte de 200 personnes, c'est pas une toute petite boîte, vous voyez. Donc c'est ça. Alors il y a la notion de start-up où il y a autant de chercheurs que d'employés. Et puis après, il y a les boîtes entre guillemets normales qui ont des structures de vente, etc., et qui jouent pas pareil. Donc c'est cette notion de docteur, donc un docteur parmi 10 personnes, ça se voit tout de suite beaucoup, et donc on n'a pas les mêmes profils, voilà. Alors, mais par contre, le nombre de PME est considérable, puisque si je compte, j'ai un chiffre, il y a 20 000 entreprises qui déclarent du crédit impôt recherche, donc ça vous donne une idée du nombre d'entreprises qui font de la recherche, voilà, c'est une première approximation. Des grands groupes, mettons, on en enlève 1 000, il reste 19 000 entreprises PME qui ont besoin de docteurs, peut-être qu'ils ne le savent pas, mais qui en ont besoin. Alors il y en a beaucoup qui savent, d'autres qui ne savent pas. Et puis après, la question c'est comment on va vers l'intermédiation entre les docteurs et ces entreprises. Les patrons de PME, ils sont sur le terrain, ils courent après leurs clients, ils courent après leurs finisseurs, ils vont chez leurs banquiers demander de l'argent, ils ont tout à faire, sauf... Aller papoter avec le responsable de l'école doctorale. Et puis le RH dans une petite boîte, c'est pas quelqu'un qui connaît tout le spectre non plus, c'est quelqu'un qui fait la gestion de la paye, puis c'est l'essentiel. Donc il y a un vrai problème de... c'est pas un problème, c'est un sujet. C'est un sujet de comment mieux faire connaître les docteurs, les écoles doctorales, ORH, faire connaître même ce profil, ces compétences dont on a parlé tout à l'heure sur la qualité scientifique, mais aussi la qualité opérationnelle et d'entrepreneur des docteurs. Et c'est là-dessus, en fait, que le MEDEF a une capacité, je dirais, de promotion, d'action, d'ailleurs d'expliquer cette problématique dont je viens de vous parler, mais aussi également de faire des conférences, des actions, donner une visibilité complémentaire aux docteurs et à ce processus de formation. Donc on a organisé en 2007, je ne sais pas si vous avez les slides là, si je peux, ou pas. Si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Hein. On a fait des conférences. Ça fait 15 ans qu'on fait des conférences. Les entreprises ont besoin de docteurs. On a fait des conférences au MEDEF en 2007, en 2009, en 2012. Je suis là aujourd'hui. Régulièrement, c'est un sujet qui revient sur lequel on communique à la fois vers le monde universitaire, mais également vers le monde de l'entreprise pour. Donc c'est un petit peu long, mais je vais peut-être pas arriver.
On va y revenir.
Je vais pas pouvoir repasser tous les slides.
J'avais une question quand même complémentaire par rapport à ce que vous venez de dire. Mm-hmm. C'est vous dites il y a besoin de faire finalement de la médiation. Et je me disais n'importe quel jeune diplômé qui cherche du boulot, il se présente à une entreprise et son premier médiateur, c'est lui-même. Donc pourquoi finalement, pour les docteurs, il faudrait venir en plus faire de la médiation avec eux ? Vous voyez ce que je veux dire ?
Alors, c'est une bonne remarque. Alors, on a monté, le MEDEF et l'ABG ont monté ce qui s'appelle le MyDoc Pro, hein, qui est un système d'aide à la conception du CV, à la présentation des docteurs. Mais avant de rentrer, et ça sera présenté par mon voisin, donc je ne vais pas vous le décrire en détail, mais pour comprendre la problématique, comment aborder le sujet pour un docteur. En fait, le premier docteur, s'il faut un sujet qui est extrêmement pointu, qui se situe à la synthèse de plusieurs domaines et puis essaye d'aller encore plus loin que tout le monde sur son domaine. En fait, quand il va dans l'entreprise, ce que disait Didier Roux tout à l'heure, il y a assez peu de chances qu'il poursuive linéairement parce que j'ai rencontré il y a quelques années un petit jeune qui me dit je suis embêté parce que en fait, j'ai fait la météorologie des exoplanètes et je ne trouve pas du job dans les entreprises privées. Alors. Ah, j'ai dit, effectivement, je comprends. Je comprends. J'ai dit, mais tu as fait quoi pour faire ça ? Alors, il m'a dit, j'ai fait la météorologie. Alors, je connais toutes les équations de Navier-Stokes et tout le tralala. Et puis, j'ai utilisé un super calculateur. Et puis, j'ai appris à publier. Et puis, j'ai appris à mettre en œuvre les logiciels, etc. J'ai dit, tu sais faire des choses quand même. C'est bien. Il n'y a pas que les exoplanètes pour toi. Et je lui dis, il faut comprendre que le sujet de la thèse. C'est un point dans un espace de possible. C'est un espace de savoir. Et c'est le sujet de thèse, c'est un point. Et il y a peu de chances que ce point, il puisse trouver directement son application dans l'entreprise. Alors des fois, ça marche bien dans le privé parce qu'on peut faire une certaine partie de ça, mais des fois, ça marche pas. C'est pas grave. On re-généralise sa position en disant finalement, je travaille dans un espace avec beaucoup de dimensions. À moi de trouver comment je vais pouvoir utiliser cet espace dimensionnel pour l'entreprise. Pour l'entreprise ou pour trouver peu importe ce que j'ai envie de faire d'ailleurs. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Les référentiels sont là aussi pour amener le thésard à ce recul. À ce recul par rapport à lui-même, par rapport à ses savoirs, de façon à pouvoir mieux se vendre. S'il veut avoir un RH en disant je sais faire que de la météo des exoplanètes, la météo de la planète Mars, mon Dieu, il n'y a aucune chance. Mais par contre, s'il dit moi je sais faire du calcul, etc., il va trouver 50 boîtes qui vont l'employer, il n'y a aucun problème. Et ça a été le cas d'ailleurs, c'était le cas. Je recule et puis hop, il est revenu un mois plus tard, il me dit oui, ça marche. Donc voilà.
C'est important, au fond, en tout cas, quand on sort du monde académique, c'est moins le sujet sur lequel on a travaillé que tout ce qu'on a mis en œuvre pour pouvoir le mener à bien. Voilà, et absolument. Soutenir cette thèse qui est quand même un monument. Ok.
J'ai un petit point. C'est vrai que
après,
le fait
vous de. Vincent Mignotte, hein, parce qu'il faut qu'il parle.
Mais. Moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans mon travail de thèse, c'est de m'apercevoir qu'en fait, ce relationnel de laboratoire et ces expériences en fait, me servent encore aujourd'hui. Ça paraît assez bizarre, mais en fait, tous les gens que j'ai connus à l'époque, ils sont dans les laboratoires, ils sont dans les entreprises un peu partout. Et en fait, c'est encore un relationnel extrêmement important pour moi, même si c'est, je ne dis pas combien, mais plus de 30 ans après que j'ai passé ma thèse. Et le deuxième point, donc, c'est pas que des connaissances scientifiques, ce ne sont pas que des connaissances opérationnelles, c'est aussi un réseau relationnel qu'il faut savoir développer, et pour ça, participer à des conférences, participer à des réseaux, etc., c'est quelque chose d'important aussi dans le temps de thèse. Et un dernier point, et puis là, je vais essayer de me taire, j'ai eu la chance quand j'ai fait ma thèse, c'est qu'en fait, quand je suis arrivé pour faire, à l'époque ça s'appelait pas les LMD, ça s'appelle, on faisait un DEA avant de faire une thèse. Moi j'ai eu une chance extraordinaire, c'est qu'en fait j'ai eu mon bureau dans le laboratoire, et donc en fait après les cours, Frédéric Deva, ben je venais dans le labo et puis je touchais les ordinateurs, je faisais la robotique, je touchais au robot, j'apprenais des choses que j'essayais de mettre en œuvre, ce qu'on me donnait en cours. Et en fait, quand j'ai attaqué ma thèse, en fait, j'ai fait ma première publi quand j'étais en DEA. Voilà. Donc c'est juste pour dire qu'en fait, c'est pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait de pouvoir aussi apprendre, donner un sens à ce qu'on apprend, et pouvoir aussi expérimenter et faire des manips. Eh bien, en fait, on gagne un an de thèse aussi. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, si vous, dans les écoles doctorales, vous pouvez trouver un moyen pour que les jeunes, ce Master 2 ne soit pas l'étape de sélection, mais ça soit déjà une porte dans laquelle les gens sont déjà bien rentrés avant de faire leur thèse, ça va permettre de gagner aussi beaucoup de temps derrière, parce que comme une thèse, c'est long. Si on peut encore la réduire, pour tout le monde, c'est mieux. Et en plus, on donne du sens dès l'enseignement au New Master, et ça, c'est quand même très, 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 très productif.
Ok. Donc, Vincent Mignotte, alors, à vous quand même.
Bonjour.
Donc, l'ABG, mais pas toute seule, avec la CPU et avec le MEDEF, comme par hasard, ont mis au point, au fond, une espèce de référentiel de compétences. Donc, tout ce que l'on vient d'esquisser, autrement dit, c'est pas le sujet qui est important, c'est tout ce qu'il y a autour pour arriver à le faire, eh bien, des noms ont été mis sur ces compétences, un classement en a été fait, de manière, et surtout une méthode est proposée par la BG, la CPU et le MEDEF, pour que les doctorants et les docteurs s'approprient ces compétences et parviennent à les formuler le mieux possible, si j'ai bien compris. Vincent
c'est,
Mignotte.
C'est tout à fait ça, et c'est effectivement un travail partenarial qui a duré bien 3 ans. Effectivement partagé entre la BG, le MEDEF et la Conférence des présidents d'université. Voilà, merci. Partant de ce problème qui a déjà été évoqué, y compris par Madame la Ministre, sur les compétences des docteurs et la manière de les valoriser, de les mettre en œuvre. Alors c'est vrai que le doctorat, et c'est le but de ce colloque, je pense qu'on en entendra parler beaucoup des compétences des docteurs, donc il y a différentes façons d'en parler et de les résumer, je vous en propose une, mais c'est non seulement une expertise scientifique, mais c'est aussi des méthodes d'appréhension de la réalité, une façon de regarder le monde et de regarder les problèmes pour les affronter. Et puis je reprends à mon compte une citation de l'ancien DRH du CEA qui disait que l'expérience de la recherche, c'était acquérir la capacité à travailler sur un problème mal posé, qui n'a pas de solution connue et auquel son patron ne comprend rien. Et j'aime bien cette citation, donc voilà, je vous la livre. Et puis toutes les compétences transversales dont vous avez déjà entendu parler, c'est-à-dire la facilité à travailler en équipe, à se créer un réseau scientifique qui peut être le prélude à un réseau plus large. Savoir faire l'état de l'art, ça c'est extrêmement important, et ça c'est quelque chose qu'un docteur sait faire de manière tellement naturelle qu'il n'en parle même pas, et c'est bien dommage parce que c'est très précieux de savoir faire le bilan d'un sujet avant de travailler dessus. Et puis la recherche apprend à consolider un certain nombre de compétences personnelles, y compris la persévérance, la capacité à se relever quand on tombe, et ça aussi c'est très important. Didier Roux a mentionné aussi quelque chose que je mentionne, c'est la capacité du chercheur à aller trouver les informations et les compétences partout où elles se trouvent, et en particulier à faire des ponts entre l'entreprise où il va travailler et puis la recherche publique, et à créer des collaborations. Voilà, toutes ces compétences, elles sont importantes, mais ce qui est très criant, et ce que la BG voit depuis 30 ans, et ce que vous voyez tous d'ailleurs, c'est que très souvent les jeunes docteurs ont le nez dans le guidon et que quand ils parlent de leur travail, ils parlent surtout des résultats scientifiques qu'ils ont acquis, ils parlent du sujet de leur thèse, plus ou moins compliqué, mais ils ne parlent pas vraiment des compétences qu'ils ont acquises et encore moins des circonstances dans lesquelles ils ont acquis ces compétences, ce qui est encore plus important. Et c'est la question à laquelle nous avons voulu répondre dans cette démarche. Une démarche qui avait un double objectif. Le premier, c'était d'offrir une vision commune, partagée, dans un langage qui puisse être compris aussi bien du monde académique que du monde de l'entreprise, des compétences des docteurs. Cette notion de partage était extrêmement importante. Et puis le deuxième objectif, c'était de permettre justement la création de profils de compétences personnalisés, c'est-à-dire qu'un référentiel de compétences, madame qui est en ressources humaines ne me démentira pas, c'est pas quelque chose d'extraordinairement sexy, un référentiel de compétences, et il faut que ce soit opératoire, il faut que ce soit pragmatique, il faut que ça serve à quelque chose, sinon ça finit au fond d'un tiroir. Et donc c'est ce que nous voulions absolument éviter, C'est-à-dire qu'il fallait que ça puisse permettre aux gens de créer des portefeuilles de compétences personnalisées. Donc le site mydocpro.org a ouvert après ce long travail en février 2015. Si vous le regardez, vous trouverez à peu près 86 ou 87 profils de docteurs dessus, mais derrière, il y a un millier d'utilisateurs enregistrés. Et pourquoi ? C'est parce que, évidemment, quand vous préparez la description de vos compétences, vous n'êtes pas forcément enclin à rendre ça public, mais ça vous permet de préparer vos entretiens d'embauche en toute quiétude. Et donc c'est pour ça, je pense, que la majorité des utilisateurs n'ont pas encore publié leur profil. Je vais vous montrer quelques visuels très rapides si vous ne connaissez pas encore le site. Nous avons voulu que quand vous arriviez sur le site mydocpro.org, vous tombiez directement sur le référentiel et sans blabla. Et puis en bas, vous avez des témoignages d'un certain nombre de personnalités qui vont s'enrichir encore très bientôt. Donc si vous pouvez me donner la diapo suivante, vous pouvez voir ici un peu mieux les 24 compétences clés que le groupe de travail a dégagées et qui se répartissent...
Juste, excusez-moi, une petite question. Pourquoi 24 et puis pas 25 et
Ça se divise par un certain nombre de nombres premiers.
La sélection et la définition des compétences.
Je sais pas, au début il y en avait 51, ça nous paraissait beaucoup, donc on est arrivé à 24, on était très contents. Voilà. Pourquoi 24, je sais pas. En plus, vous voyez que c'est pas homothétique, il y a 4 groupes.
La question, en fait, c'était de savoir qui avait travaillé autour de ce référentiel, voilà, pour l'établir.
C'était vraiment un groupe de travail que nous avons voulu paritaire et qui a beaucoup évolué au cours du temps, avec des représentants d'entreprise, des représentants d'écoles doctorales en particulier, et donc un groupe qui a été un peu polymorphe, mais qui a toujours été paritaire. C'était fondamental. Alors, je ne vais pas vous les décrire par le menu, mais ça va crescendo entre le cœur de métier, qui est vraiment le métier de chercheur, quelle que soit la discipline, parce qu'évidemment, il ne faut pas que ce soit biaisé et qu'on ne parle pas de technique, on parle vraiment de compétences générales acquises par les docteurs, les qualités personnelles et relationnelles, tout ce qui est ensuite, qui relève plutôt de la création d'activités, du management, etc. Et puis, en dernier lieu, la stratégie et le leadership. Pourquoi parler de stratégie et de leadership ? C'est important pour un chercheur d'être stratège dès ses premiers pas en recherche, parce que si vous travaillez sur un sujet de recherche, c'est forcément un sujet concurrentiel, donc il faut que vous sachiez vous positionner par rapport à la concurrence, et donc vous avez des aptitudes stratégiques. Alors ces compétences, c'est aussi une originalité du référentiel, elles sont réparties sur 3 niveaux, alors ne cherchez pas à lire, c'est pas forcément ce qui est intéressant. Ici, vous avez une compétence parmi d'autres, c'est gestion de l'information. Dieu sait qu'un chercheur sait faire ça. Mais les 3 niveaux de compétences, ils visent aussi à refléter l'augmentation des compétences des docteurs pendant leur carrière. Alors, si vous voulez faire simple, 30, 40, 50 ans. Et donc, quelqu'un qui va monter en responsabilité, qui va donc enrichir ses compétences. C'est aussi une originalité du référentiel, c'est-à-dire qu'une entreprise pourrait s'en servir pour recruter son directeur scientifique, par exemple.
Ce n'est pas que pour les doctorants.
Voilà, ce n'est pas que pour les jeunes docteurs, absolument.
De trouver le poste d'après.
Tout à fait. Et puis, il y a des pages didactiques qui arrivent seulement après pour, d'une part, les docteurs, qui est évidemment une cible importante. Comment utiliser ce référentiel de compétences ? Donc là, je passe assez rapidement. Le but est d'arriver à quelque chose qui soit assez narratif, comme vous allez le voir après. Des pages qui sont destinées aux dirigeants et recruteurs, parce qu'il faut évidemment que DocPro parle aux entreprises, c'est extrêmement important. Il faut qu'elle s'empare de cet outil. En particulier, une entreprise, ce qui est important aujourd'hui, et là aussi je parle, mets un petit doigt sous votre contrôle, les entreprises ne font pas que publier des offres d'emploi. Elles cherchent aussi à entretenir des viviers de compétences. À ce que des jeunes s'intéressent à l'entreprise et comprennent ses valeurs et ce qu'elles recherchent. Et là aussi, DocPro est une occasion pour les entreprises de dire quel type de profil elles recherchent, de manière assez générique, à quelles compétences, à quelles valeurs elles sont attachées, et elles peuvent le faire avec DocPro. Et puis enfin, les responsables académiques, dont beaucoup sont ici aujourd'hui, peuvent se servir de DocPro en particulier pour renforcer les compétences de leurs doctorants sur des domaines sur lesquels ils auraient identifié des faiblesses. Alors, je sais pas, je vous prends un exemple, la propriété industrielle, par exemple. Si vous pouvez identifier, par exemple, que sur une de ces compétences, vos doctorants ne sont pas suffisamment armés, vous pouvez éventuellement vous servir de DocPro pour bâtir des parcours de compétences.
Mais Comment ça fonctionne? Enfin, je veux dire, le doctorant est tout seul face à ça. Enfin, comment on interagit avec l'outil? Comment on le renseigne? Comment on réfléchit? Comment on... Voilà.
Alors, j'espère qu'il est suffisamment didactique pour que les personnes puissent effectivement l'affronter seules. Néanmoins, nous comptons aussi sur les responsables d'école doctorale, sur les BAIP, sur toutes les personnes qui ont l'habitude dans les établissements d'accompagner les doctorants. Pour les former à cet outil, et l'ABG est bien entendu à leur service pour cela. Je vous montre ici, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, le profil d'un jeune docteur qui a créé un profil personnalisé. Vous voyez qu'il est en anglais, donc ça vous montre sans en parler davantage que l'outil est complètement bilingue. Donc il a coché un certain nombre de compétences, quasiment la totalité, et puis dessus, comme vous allez le voir à la diapo suivante, voilà comment on utilise l'outil. C'est-à-dire que sur une compétence, si elle vous parle en tant que docteur, eh bien vous pouvez dire, voilà, moi j'estime que je suis à ce niveau-là de la compétence, 1, 2 ou 3. Et puis j'ai une boîte de dialogue qui est ici au-dessus, dans la figure, et que je peux remplir en racontant une expérience que j'ai vécue. Donc ici, si vous ne pouvez pas lire, il raconte une expérience qui lui est arrivée pendant sa thèse, où en fait une autre équipe a publié ses résultats avant lui. Et donc il a dû réorienter son travail pour arriver à sauver les meubles, si je puis dire, et à publier malgré tout. Et donc il a fait preuve d'une certaine capacité de résistance aux aléas. Voilà, et c'est ce qu'il raconte dans cette boîte de dialogue. Donc ça permet vraiment d'exposer les compétences sur un mode narratif qui montre vraiment comment on les a acquises. C'est ça qui est important.
Bénédicte Tilloy, en tant que maintenant, même si les RH n'étaient pas votre pain quotidien, aujourd'hui ça le devient davantage. Comment vous percevez une initiative telle que celle-là, qui est une initiative fédérant carrément quand même à la fois les entreprises, l'université et les intermédiaires compétents?
Alors d'abord, je trouve que c'est extrêmement bien que vous ayez pris en main ce travail, parce que c'est vrai que les écoles d'ingénieurs ou les écoles de commerce, elles ont des machines de guerre pour vendre les compétences de leurs collaborateurs, et qu'il est indispensable que vous vous saisissiez de cette même machine de guerre pour vendre les compétences des docteurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement aussi donner à chaque collaborateur, enfin à chaque, je suis déjà en train d'imaginer collaborateur, à chaque docteur, l'idée qu'il va falloir qu'il vende non seulement ce qu'il a fait, mais ce qu'il est, parce qu'on va acheter des compétences pour une carrière, on ne va pas acheter des compétences uniquement pour un premier poste. Donc on va chercher à projeter la personne dans une perspective et dans un parcours et dans une interaction avec les autres. Et moi j'ai beaucoup, enfin, votre deuxième phrase, je la trouve formidable, hein. Je me permets juste de la compléter. La capacité à travailler sur un problème mal posé, qui n'a pas de solution connue et auquel son patron ne comprend rien, mais qui lui permettra de se valoriser. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on on rentre dans une équipe, et c'est toute l'équipe on va faire profiter toute l'équipe de sa compétence, et toute l'équipe va se trouver en fait bénéficier de cette capacité à conceptualiser et en même temps à rendre opérationnelle la compétence. Et je pense que c'est vraiment très important de développer ça. Et plus on fait du storytelling, c'est-à-dire plus on raconte les histoires des échecs et des réussites que l'on a pu avoir pendant la thèse, et plus on est attractif davantage que les résultats, parce que je reconnais que en dehors d'une spécialité des exoplanètes, moi j'aurais quelqu'un qui viendrait me parler des exoplanètes, d'abord je passerai du temps à comprendre de quoi il s'agit, mais je suis pas sûre, je chercherai à travers le discours en tout cas et l'échange à recueillir toutes les autres compétences qui sont tout autour.
Y a-t-il des questions, des témoignages, des interrogations dans la salle? Profitez-en, on a 20 minutes.
Je veux juste profiter d'autre chose pendant,
oui, pendant que le micro arrive.
On recueille une question. J'ai entendu parler de la durée de la thèse. La durée de la thèse en France est de 3 ans. Alors c'est vrai qu'il y avait un enchaînement que j'ai vécu aussi, hein, DEA thèse qui était plus facile. Elle est quelquefois plus longue dans d'autres pays, mais qui ne commence pas au même moment. Je crois qu'il est important qu'on ait une période qui ait cette durée-là. Parce que durant cette durée, quelque chose qui n'a pas été dit, quand on est docteur, c'est qu'on a été au bout de sa démarche intellectuelle et du sujet. Alors au bout du bout, non, mais on a finalisé quelque chose. Et ce qu'on apprend, et qu'on n'apprend pas ailleurs dans le système français, c'est à la fois le doute, Mais c'est aussi les formes d'échecs. Parce que dans le système français, on n'a le droit que de réussir. Or, pendant une thèse, quand on fait des recherches, ce qu'on apprend aussi, c'est à un moment donné, ben, ça ne marche pas. L'expérience ne marche pas, on ne trouve pas la documentation. Je parle de juristes qui cherchent des textes originaux, qui ne les trouvent pas. On ne trouve pas la solution à un problème. Et on est obligé de mettre tout ça en perspective. Et notre système français n'est pas du tout basé sur l'échec. Donc, où peut-on se former et où peut-on avoir une appropriation des difficultés et de contourner des difficultés, c'est bien pendant la thèse. Et ça, c'est une expérience qui mériterait presque d'être dans le référence dans le référentiel de compétences.
Allez-y.
Bien, bah, écoutez, merci de cette...
Présentez-vous, très bonne... s'il vous plaît.
Oui, je pensais ne pas avoir à le faire, compte tenu que ma réputation de docteur... enfin, je vois qu'elle n'a pas dépassé le cadre de mon adresse personnelle. Donc, je suis Pierre Maître et je suis membre du CNESER, accessoirement docteur, et pour l'université CNU11, dont je pense que vous savez ce que c'est, sont les études anglaises. Bon. Alors, ma question est la suivante. Vous avez effectivement expliqué que les candidats à l'embauche devaient se vendre. Bon, ça c'est clair, si on considère qu'ils sont sur un marché du travail, un petit peu comme dans ma campagne, on emmène un bœuf gras à la foire aux bestiaux. Et donc, ils doivent effectivement vendre quoi ? Un savoir, un savoir-faire et un savoir-être. Bon, mais ça, c'est valable pour tous les diplômes et pour n'importe quoi. Moi, mon problème, c'est un peu le problème de la reconnaissance du doctorat. Alors, on est tous d'accord que c'est un diplôme extraordinaire, etc. Je vois dans la dernière présentation que le mot docteur est devenu PhD. Alors, je m'inquiète parce que ça, c'est américain et c'était pas le doctorat français, hein, me semble-t-il. Mais enfin, bon, alors, on pourra peut-être m'expliquer, mais c'est pas là-dessus. On veut effectivement que ce doctorat soit reconnu par les entreprises. Bon, simplement, est-ce que quelqu'un pourrait expliquer comment ça marche ? Parce qu'une entreprise, il y a des conventions collectives, on est embauché sur des grilles, or, les conventions collectives, à ma connaissance, ne reconnaissent pas les diplômes. Elles reconnaissent uniquement les emplois. Et donc, à partir de là, moi, je suis très content qu'on puisse affirmer ici qu'il faut reconnaître, etc. Mais lorsque je négocie des conventions collectives, et notamment je négocie celle de l'enseignement supérieur, j'ai deux réponses. Première réponse des employeurs, pour être enseignant-chercheur dans une école de commerce, c'est pas la peine d'être docteur. Alors, comme ça m'interpelle, je pose la question à l'époque à M. Bournois, qui était le président de la CEFDG, qui m'a dit, ben oui, vous avez raison. Enfin, il m'a dit, non, tu as raison, puisque en tant que collègue, on se tutoie. Quand on est à grade égal, c'est comme dans l'armée. Donc, il m'a dit, oui, tu as raison. Pour être enseignant-chercheur dans une école de commerce, il n'y a pas besoin d'être docteur, il suffit simplement d'avoir un bac plus 5. Voilà. Donc, par conséquent, lorsqu'on discute avec les employeurs nous disent... Ben oui, mais on ne reconnaît pas le doctorat, pas plus qu'on reconnaît autre chose. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est... je crois qu'il n'y a qu'une seule convention collective qui reconnaît ça, c'est la chimie, me semble-t-il. Alors la question, c'est comment se fait-il que les employeurs qui, d'un côté, veulent effectivement que le doctorat reconnaisse, puisque finalement, non seulement ils organisent un colloque, mais si j'ai bien compris, ils financent un peu... Et que de l'autre côté, lorsqu'on dit « mais il faudrait que ces conventions reconnaissent le doctorat », eh bien, il y est quasiment un obstacle. Je poserai un autre problème qui est celui de la VAE.
Si on pouvait répondre déjà à cette question, ça serait pas mal. Je pense qu'on va y passer un peu de temps. Je crois qu'elle s'adresse directement quand même en premier aux représentants du MEDEF. Chacun pourra s'exprimer après dessus. Accessoirement, d'ailleurs, j'avais aussi envie de poser la question à ma voisine de savoir, hors ou en convention collective, comment finalement un grand groupe valorise l'expérience de la thèse au niveau rémunération et perspective de carrière.
Alors, bon, le premier point que vous avez mentionné, qui est très juste, effectivement, ce n'est pas dans les conventions collectives. Par contre, c'est dans les grilles. De la plupart, je parlais des grands groupes tout à l'heure, la plupart des grands groupes valorisent effectivement le doctorat, puisque il y a des grilles d'embauche, et en fait les docteurs sont embauchés comme des ingénieurs avec de l'expérience. Ouais, donc en fait les années sont valorisées, c'est pas juste comme ça. Donc en fait un docteur qui rentre n'est pas un pur débutant bac plus 5 en fait, il est valorisé avec son expérience. Donc ça c'est dans la plupart des grilles des grands groupes. Les PME, elles n'ont pas vraiment de grille, donc après c'est plus leur approche personnelle du sujet qui va, mais c'est pas bloquant. La convention de la chimie, je sais pas, vous l'avez lue de près ou pas? Parce que moi j'ai lu de près. Je suis franchement.
Pas vraiment de près, au sens que je la connais pas par cœur, mais.
Ça vaut le coup de la lire quand même en détail, mais. Elle reconnaît l'expérience professionnelle des docteurs, c'est-à-dire qu'en fait, on reconnaît les docteurs comme ayant des personnes qualifiées, ayant eu une expérience professionnelle. Ouais, donc en fait, et en fait, ils rentrent dans un système de grille où on les prend comme des ingénieurs qui ont 2 voire 3 ans d'expérience. Ouais, donc ça rentre comme ça. C'est pas une reconnaissance du diplôme en tant que tel, c'est la reconnaissance d'une expérience professionnelle qui est liée au doctorat. Hein. Reconnaissance du doctorat dans les conventions collectives, comme vous l'avez cité justement, pas plus que les autres diplômes. On embauche une personne pour une fonction. Si avec votre doctorat vous avez envie d'être secrétaire, on vous paiera au travail d'une assistante, etc. Quoi. C'est lié au métier, aux responsabilités. Et en fait, les conventions collectives donnent. Décrire à la fois les métiers et les responsabilités qui sont attachées au poste. C'est pas lié au diplôme du tout. Et donc, on peut avoir des gens très compétents, mais qui peuvent avoir des très beaux diplômes, mais qui sont pas dans le bon poste pour X raisons, y compris des raisons personnelles. Donc, ça marche pas comme ça. Moi, je m'interroge aussi sur, je dirais, une forme d'habitude intellectuelle. Le doctorat, pendant très longtemps, a été le sésame. Exclusif de l'entrée au professorat dans les universités, et donc en fait l'université essaye de calquer ce mécanisme. Si je veux être prof et chercheur en université, il me faut un doctorat absolument, et donc les entreprises vont faire comme moi. Ben non, moi je dis non. Et puis en plus c'est pas si vrai que ça comme vous le mentionnez. Non, c'est pas ça, ça apporte rien de plus. La question ne se pose pas comme ça. Hein, voilà. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on essaye en plus de faire des... Bon, alors après, on pourrait parler de la fonction publique. On ne connaît pas le doctorat nulle part ailleurs. Hein, essayer de rentrer, travailler dans au pont, aux mines, etc. Si vous avez avec un doctorat, ça ne marche pas. Hein. Donc, je dirais, c'est l'université. C'est très sectoriel, ce mode de pensée. Donc, et ça ne marche même pas dans la fonction publique. Donc, à nouveau... qui n'a même pas la logique du docteur dans la fonction publique, alors que les entreprises l'ont. Vous voyez, donc c'est quand même, il y a déjà un progrès. Donc moi, je peux vous répondre sur cette façon-là. Les docteurs sont reconnus pour, on en a parlé tout à l'heure, leurs compétences techniques, leurs compétences opérationnelles, et aussi pour leurs compétences, je dirais, relationnelles, personnelles.
Pierre Mutzernard, vous voulez
juste au passage, je voulais dire, je pense après, en voyant des DRH d'autres grands groupes comme la SNCF, qu'en effet les grilles sont en train d'évoluer et des grilles maintenant peuvent mentionner à l'embauche directement le fait qu'on est docteur ou pas, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. En revanche, derrière la loi de 2013, on voit bien que dans la fonction publique, il y a un manque de reconnaissance du doctorat qui est patent. Donc il y a un certain nombre de gens des ministères qui sont ici. On attend bien que derrière la loi de juillet 2013, il y ait des actes.
C'est ce que la ministre a rappelé tout à l'heure en disant que le secteur public devait lui-même être exemplaire. Oui.
Oui, Armand Coujou, j'étais directeur d'école doctorale à Toulouse. Et j'ai travaillé dans la commission dont a parlé Vincent Mignotte. Je voudrais ajouter quelque chose. En fait, la thèse, ça avait été dit d'ailleurs par l'ancien directeur de l'enseignement supérieur à la CPU de Nancy, la thèse est un moment très stressant pour le doctorant, d'autant plus qu'on en a diminué la durée à 3 ans. Donc en 3 ans, le doctorant doit s'approprier un sujet et le mener au top niveau international avec des interventions dans les congrès internationaux et puis aussi la présentation devant un jury qui est top niveau national ou international. C'est ce stress qui génère une transformation pendant ces 3 ans, et c'est cette transformation par rapport à l'état précédent, c'est-à-dire au niveau ingénieur, c'est cette transformation que met en évidence DocPro en particulier, en mettant en évidence des aspects comme l'impact que l'on a, la capacité de rebondir, et c'est ce stress qui se transforme. Et il faut bien montrer qu'à l'issue de la thèse, bon, ce stress, il est d'autant plus, il n'est pas tout le temps au même niveau. C'est-à-dire, si on a un mauvais directeur de thèse, il est plus important, donc se transforme davantage. Mais c'est ce stress qui fait une transformation, et c'est cette transformation que met en évidence DocPro. Et je vous signale que DocPro, ça peut être utilisé pour les docteurs, mais ça peut être utilisé pour tout le monde. C'est-à-dire que je me suis amusé à aider des gens à faire des CV, des gens qui n'avaient, à la limite, pas fait d'études, et montrer justement l'impact qu'ils ont, tout un tas de qualités, de compétences que met en évidence DocPro pour être utilisé par tout le monde.
Je vous remercie. Alors, en attendant, une autre question.
Oui, j'ai un petit point sur la durée de la thèse, en fait, aussi. Hein, alors, à la fois, il faut du temps, il n'en faut pas trop. Alors pourquoi? Parce qu'en fait la thèse, à nouveau, c'est le but, c'est de former des professionnels. Et des professionnels, ils ont aussi besoin de gérer des projets dans le temps. Et en fait la thèse, c'est le premier moment où en fait le jeune se trouve confronté à gérer un problème difficile avec un temps borné, des moyens bornés, sa bourse de thèse. Et il doit produire quelque chose à la sortie. À lui d'optimiser tout ça, hein, dans sa complexité, parce qu'évidemment, il peut faire plus de biographies, il peut continuer son état de l'art, etc. Mais il n'a rien produit à la fin. Vous voyez, donc il faut qu'il harmonise, je dirais, sa répartition du travail et sa production en elle-même durant ce temps. Donc les thèses trop longues, c'est pas bon. Il faut au contraire garder une thèse courte d'abord, parce que c'est bien, parce que d'abord on veut que les thèses, enfin la formation, ça doit s'arrêter un jour non plus, hein, faut le dire. Donc 3 ans, c'est une bonne durée. Voilà, personnellement, et là on a une vraie divergence. Alors après, c'est entre les sciences dures et les sciences molles. Les sciences dures restent sur ces 3 ans. Par contre, statistiquement, on voit que les sciences molles sont beaucoup plus longues. Alors il y a des historiques. J'opposais les sciences dures dont parlait Didier Roux tout à l'heure. Je garde le terme parce qu'un jour, quand j'ai dit que j'étais pas de la science, alors là, en plus, je me suis écharpé. Alors donc, je pense qu'il y a un vrai travail méthodologique qui est fait en sciences humaines, qui est différent des sciences dures. Qui demande une forme de rigueur qui n'est pas évidente du tout à cause des problèmes de reproductivité. Voilà, c'est pour ça que je mets c'est ce que j'appelle les sciences molles, voilà, mais qui ont néanmoins leur rigueur à être. Donc, d'où le mot science. Voilà, hein.
Et il n'y a pas que les sciences humaines et sociales, d'ailleurs. Les sciences de la vie et de la santé aussi débordent pour moitié. Les thèses en sciences de la vie et de la santé durent 4 ans. Il y avait une question là-bas, madame.
Donc, Heidi Charvin, je suis co-responsable du secteur recherche au SNESUP et je suis aussi membre de la CPCNU. Je voudrais que vous évoquiez le problème, la responsable à l'ANRT du travail sur le CIFRE et qui a fait une analyse sur ces 25 dernières années montre très bien qu'on a un problème majeur concernant les docteurs qui vont vers les entreprises, c'est que la plupart d'entre eux souhaitent retourner vers le monde académique au bout d'un certain nombre d'années. Et une des raisons pour lesquelles ils souhaitent revenir vers le monde académique est la non-reconnaissance sur la grille indiciaire de leurs compétences, puisqu'on a quand même une particularité française pour laquelle on préfère embaucher dans les entreprises les ingénieurs plutôt que des docteurs ou parallèlement à des docteurs, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'embauche pas les deux. Mais la capacité des docteurs n'est pas reconnue par rapport à la plupart des pays, je veux dire, industriels, à sa juste mesure. Et ce que vous avez évoqué, monsieur Gouzenès, lorsque vous avez évoqué dans votre entreprise sur le fait que 200 docteurs avaient été embauchés pour des contrats de recherche, évoque tout à fait peut-être le noyau du problème, c'est-à-dire qu'on reconnaît beaucoup au niveau des docteurs leurs compétences de recherche scientifique, mais pas leurs compétences transversales et la plus-value qu'ils peuvent apporter en termes d'analyse, de synthèse et de réflexion, comme ça l'est dans la plupart des pays étrangers. à l'exception de la France, où on a le problème des grandes écoles en concurrence avec les universités. Est-ce que on sait que le problème de la reconnaissance du doctorat dans les conventions collectives échoppe à ce niveau-là, et notamment sur l'aspect du salaire? Est-ce que vous pouvez évoquer si ça a avancé sur le sujet?
Bénédicte Thillois, à la SNCF, les docteurs, ils s'en vont?
Alors, moi, je voudrais apporter une réponse opérationnelle qu'on a mise en place il y a quelques années, qui est de dire, oui, c'est vrai, il y a un risque que si on poursuit sa carrière dans la recherche, on avance moins vite que si on a une expérience...
Si ça marche.
Que si on a une expérience transversale qui intègre notamment des responsabilités opérationnelles de commandement d'équipe sur le terrain. Et pour corriger ce point, il a été mis en place ce qu'on a appelé la démarche Synapse. Synapse, c'est une communauté qui a vocation à animer l'ensemble des docteurs de l'équipe SNCF et qui garantit un certain déroulement de carrière sous réserve que ça profite à l'ensemble de l'entreprise. C'est-à-dire que les chercheurs continuent à publier, se montrent dans les colloques, valorisent l'entreprise auprès de la communauté scientifique. C'est-à-dire qu'on essaie de compenser le manque de visibilité potentielle qu'ils peuvent avoir parce que restant dans l'entreprise, contre l'intérêt que nous avons à les garder et à les faire progresser dans l'univers. Mais ça n'est pas la seule réponse, c'est-à-dire que nous avons aussi intérêt à ce qu'ils alternent des parcours scientifiques avec des parcours de management. Et on a aujourd'hui des dirigeants qui ont pu progresser aussi parce qu'ils ont fait ils ont exercé des fonctions opérationnelles, et ça n'est pas renier son univers de référence que de faire pendant quelques années un parcours opérationnel. Ça aide après à prendre des responsabilités d'encadrement d'équipes d'ingénierie, par exemple. Et je milite moi personnellement pour qu'on ait les deux possibilités dans la carrière professionnelle.
Brièvement, Laurent Gouzen.
Petite statistique quand même qui était faite sur les comités de direction des grands groupes. La France a 20% de docteurs dans les comités de direction, et dans les autres pays, on est à 13-14% en Allemagne, en Angleterre, voire 10% aux États-Unis. Donc en fait, puis moi je viens d'une entreprise où quasiment tout le management avait un doctorat. Donc je ne peux pas vous dire, vous allez chez Air Liquide, vous allez chez Saint-Gobain, vous trouvez sans doute aussi des profits très similaires avec une très grosse densité de docteurs.
On a le temps pour une dernière question.
Oui, merci. Mais la France à l'ENA et Polytechnique et quelques autres grands établissements. J'avais une réaction d'abord par rapport à la table ronde en elle-même. Merci beaucoup pour vos interventions. Et pour observer que finalement, j'ai eu l'impression d'entendre davantage parler des compétences conférées par le doctorat que par la formation doctorale. Il y a là un point qui est un point de réflexion, c'est-à-dire que le doctorat en lui-même, en ce qu'il est le point d'aboutissement d'un parcours, permet lui-même d'identifier un certain nombre de compétences, et vous l'avez très très bien dit. Je crois qu'en ces temps où nous réfléchissons tous, François Guy Trébulle, droit, Sorbonne, en ces temps où nous réfléchissons tous à cette question de la formation doctorale et des parcours doctoraux, il y a quand même là quelque chose qui est un vrai sujet d'interrogation. Alors ça a été dit très bien sur la valorisation d'un certain nombre de choses faites. Ceci dit, c'est pas réellement de la formation en elle-même, c'est bien le doctorat en tant qu'outil particulier qui nous préoccupe. Il y avait une interrogation que j'aurais aimé vous livrer sur l'unité ou la diversité du doctorat. Nous sommes réunis ici parce que nous représentons tous, non pas des doctorants, mais bien des écoles doctorales où nous formons, nous accompagnons des gens dans la préparation d'un doctorat. Et pardon de vous avoir pris, d'avoir réagi à votre expression de science molle, mais nous y sommes accoutumés, même si nous ne nous lassons pas de réagir, nous autres juristes notamment. Mais le fait est, y a-t-il réellement un doctorat? Le doctorat existe-t-il? Y a-t-il un sens à penser le doctorat en termes d'unicité et non pas en termes de pluralité? Et la question est encore plus actuelle à l'heure où, tout le monde le sait ici, on discute des arrêtés qui vont tous nous faire marcher d'un même pas, sous une même férule, avec des process qui seront des process harmonisés à défaut d'être imposés. Cette unicité, c'est vraiment une question parce que, vous le disiez, un doctorat pour un ingénieur, un doctorat pour un scientifique de sciences exactes ou de sciences dures, tandis qu'un doctorat dans les sciences humaines est quelque chose de différent. Et cette diversité des parcours, cette diversité des rythmes, comment est-ce qu'on peut la traduire? J'ai le sentiment, et peut-être est-il faux, mais j'ai le sentiment que, vu du côté de l'entreprise, par rapport à la demande des entreprises, ben finalement, le doctorat peut aussi permettre d'identifier des compétences qui n'auront pas été acquises au terme des 3 ans, juste après l'obtention du Master 2 recherche qui permet, etc. Et cette diversité des doctorats me semble quelque chose sur lequel il serait intéressant d'avoir votre éclairage et votre réaction. Et puis dernier point et j'arrête, mais que pensez-vous de l'injonction paradoxale à laquelle on soumet en permanence et de plus en plus nos doctorants en disant il faut que vous fassiez votre thèse en 3 ans, mais il faut que vous soyez ouvert à l'international, il faut que vous fassiez un peu d'enseignement, il faut que vous publiez un article ou 2 ou 3 et puis tant qu'à faire que vous alliez développer des expériences pourquoi pas aussi en entreprise, mais surtout 3 ans, bon allez à la limite peut-être 4 ou 5. Il est des champs disciplinaires, et ça rejoint peut-être la question de la singularité ou de la pluralité des doctorats, il est des champs disciplinaires dans lesquels c'est peut-être souhaitable, c'est peut-être nécessaire, il en est d'autres dans lesquels on peut être un tout petit peu plus dubitatif, peut-être, enfin c'est un regard d'un opérationnel de la formation doctorale, c'est-à-dire de pas grand-chose. Merci.
Pierre Mutzenhardt, vous unifiez tout ça dans un mot de la fin?
Oui, il y a un arrêté doctoral qui est en préparation. Je pense qu'on a toujours une confusion en France entre le temps du diplôme et le temps du financement du diplôme. Je crois que les 3 ans relèvent aussi du temps de financement du diplôme. Par contre, qu'il y ait une borne supérieure qui là est fixée à 5 ans, ça semble quand même être aussi raisonnable à un moment de donner à un diplôme de ce type-là une borne supérieure. Ou alors on change complètement, il faut plus changer le système. Est-ce que la durée est adaptée à tous les types de travaux de recherche? Science expérimentale et formelle, on peut trouver d'autres termes que le dur et le mou. Il y a des domaines, on l'a dit, notamment la biologie, pour lesquels les travaux peuvent être aussi plus longs. Mais de faire aussi un dogme, je le dis parce que vous êtes dans une école juridique, comme ça c'est dit, que la thèse de toute façon doit durer plus que 3 ans, et je le dis parce que c'est quand même un dogme d'un certain nombre de sections CNU quand elles qualifient, et est quand même aussi problématique. Donc on n'arrivera pas sans doute à trouver un juste milieu. La normalisation n'est jamais une bonne chose, mais si on doit trouver des canons, je pense qu'entre 3 et 5 ans pour un doctorat ni trop court ni trop long peut déjà être quelque chose, quand il est fait à plein temps, peut déjà être quelque chose d'acceptable. Voilà. Maintenant, si un mot de conclusion, c'est toujours pour aller dans le sens qui est là. Je crois que dans la formation doctorale, en effet, c'est ce que vous dites, on essaye peut-être de faire le mouton à 5 pattes avec l'international, l'enseignement, etc. Mais on ne demande pas à tout le monde d'avoir l'ensemble de ses compétences. On propose, je pense, un ensemble de palettes de compétences vers l'international, l'entrepreneuriat, ou des compétences complémentaires, c'est ce que vous faites très bien dans les écoles doctorales, et qui permet quand même à des gens qui sont adultes de pouvoir eux-mêmes dessiner leur futur profil et le dessiner peut-être de manière différente, et c'est ça aussi toute la force du doctorat. Merci.
Eh bien, merci à tous, merci de votre écoute, merci de vos questions, j'espère que... Voilà, on n'a pas fini de parler de compétences dans ces 2 journées. Voilà.